Bonjour tout le monde, bon vendredi. Ben écoutez, c'est une autre déception, franchement. Là, on apprend que l'UPAC ferme la fameuse enquête là, sur les allégations de corruption à la Société immobilière du Québec. Donc encore un échec. Ça impliquait, je vous le rappelle, plusieurs collecteurs de fonds libéraux. On ne perdra pas de temps. On va aller tout de suite à la journaliste Marie-Maude Denis, journaliste donc pour l'émission Enquête, qui avait enquêté justement là-dessus, qui était l'une des trois journalistes qui avait sorti ce reportage en 2016. Marie-Maude, bonjour.
Bonjour Bernard.
Rappelez-nous les faits que vous aviez
de l'enquête de justesse.
Oui, voilà.
Donc ce qu'on révélait en 2016, Bernard, c'est qu'il y a l'ancien président de la Société immobilière du Québec, Marc-André Fortier, et trois collecteurs de fonds du Parti libéral, William Bartlett, Charles Rondeau et Franco Fava, qui se seraient partagés des sommes de plus de 2 millions de dollars en marge de transactions extrêmement douteuses à la Société immobilière du Québec. C'est quoi la Société immobilière du Québec? Maintenant, ça s'appelle la SQI, Société québécoise des infrastructures, mais à l'époque des transactions douteuses, c'est l'appareil gouvernemental qui gère tout l'immobilier du gouvernement, tous les bureaux de fonctionnaires, tout ça était géré par la Société immobilière du Québec. Et ce qu'on avait démontré avec des documents financiers, des documents policiers, des courriels, c'est qu'il y avait eu des mouvements d'argent à la suite de transactions immobilières qui s'étaient retrouvés dans des comptes de banque à l'étranger, dont les titulaires étaient Charles Rondeau, Franco Fava et William Bartlett, ainsi que Marc-André Fortier. Il y avait des mouvements d'argent en Suisse, en Belgique, au Liechtenstein, aux Bahamas, en Autriche, des courriels incriminants. Et il faut revenir aussi sur les transactions. Les transactions étaient complètement au désavantage des contribuables québécois. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la vérificatrice générale du Québec qui a fait enquête par la suite. On parle de prolongation de baux inexpliqués, inexplicables. On parle de vente d'immeubles du gouvernement où il y avait une location par la suite à des tarifs qui étaient très avantageux pour les promoteurs. Et ce qui était particulièrement troublant dans notre reportage, c'est la concurrence de temps entre ces paiements à l'étranger, des intermédiaires entre les promoteurs privés de ces immeubles-là et la destination finale et la décision finalement de administrative de la SIC de prolonger tel bail ou de vendre tel immeuble avec tel avantage. Il y a eu, pour ce qu'on révélait dans le reportage, c'est qu'il y a eu des avantages indus de 47 millions de dollars qui ont été consentis à certains promoteurs. Et on a pu établir là des commissions inexplicables d'autour de 2 millions pour les individus que je vous mentionnais à l'instant.
Et ce qui est fascinant, puis en même temps profondément déprimant, c'est que on regarde le reportage, je l'ai relu, puis je l'ai utilisé moi à maintes reprises, notamment à l'Assemblée nationale, au Salon Bleu, c'est que c'était très précis. Ce que vous aviez dans votre reportage, c'était très précis. Les noms étaient là, les transferts d'argent, les pays en question. Et là, tu te demandes, qu'est-ce qui a pu se passer pour que l'enquête échoue, pour que l'enquête avorte? Parce que vous aviez visiblement des très, très bonnes preuves, vous, en tout cas, Marie-Maude.
Et je crois que la police en avait d'excellentes aussi parce que ce dossier-là émane des autorités suisses qui ont signalé des mouvements d'argent suspects aux autorités québécoises. Ça, c'était en 2007. J'avais interviewé dans mon reportage Christian Plourde, qui était l'ancien policier de l'UPAC, finalement, qui était responsable de cette enquête-là et qui venait de prendre sa retraite. Et au moment où il m'a donné son entrevue, lui, il était convaincu que les accusations étaient imminentes. C'était le signal qui avait été donné. Le dossier avait commencé en Suisse en 2007. Il avait fait son chemin jusqu'à la Sûreté du Québec. On lui avait présenté ça, lui, à l'époque, comme un dossier facile, clé en main, réglé. Ensuite, il s'en est suivi toutes sortes de mouvements de personnel à l'UPAC, des départs, des priorités. Donc, le dossier a été comme un peu mis de côté, repris. Parallèlement à ça, il y avait des compléments de preuves à aller chercher à l'étranger et tout le processus, et ça, c'est une autre histoire sur laquelle on devrait se pencher, là, mais tout le processus d'entraide internationale d'entraide policière internationale qui chemine par les fonctionnaires de Justice Canada et ça prend, semble-t-il, une éternité. Il y a une bureaucratie qui ralentit beaucoup les opérations policières. Évidemment, le manque de collaboration de certains États étrangers aussi dans cette enquête-là, mais tout
qui sont des paradis fiscaux, Marie-Maude? Qui sont des paradis fiscaux?
Oui, ben notamment,
pour certains
oui,
d'entre eux. Voilà,
pour certains d'entre eux. Mais tout compte fait, en 2016, nous, on avait l'UPAC par la voix d'un fraîchement retraité responsable de l'enquête qui disait les accusations sont imminentes. Ensuite, semble-t-il que la procureure qui était au dossier, qui avait passé pas mal de temps à analyser ce dossier-là, a quitté le DPCP pour aller occuper un emploi ailleurs. Donc, là, on recommence avec une nouvelle équipe de procureurs. On m'avait dit à l'époque, on a mis là vraiment là, la crème de la crème sur ce dossier-là parce que c'est un dossier qui est redevenu prioritaire. Ensuite, il a été question d'une étude jurisconsable qui avait été pas adéquate, un peu mal faite à l'interne de la police, qui avait été ensuite reconfiée à une firme jurisconsable privée. Alors, tout ça, là, Bernard, ça a entraîné des délais. Et je pense que l'enquête de justesse, c'est la preuve par mille de l'adage qui veut que tout ce qui traîne se salit. Mais moi, je pense aujourd'hui à tous les témoins qui ont collaboré à cette enquête-là, des gens à l'intérieur de la Société immobilière du Québec qui étaient scandalisés. Je pense à tous les enquêteurs qui ont travaillé hyper fort dans ce dossier-là et aux résultats incompréhensibles.
Toi là, qui as quand même enquêté de nombreuses années et qui continue de le faire, comment tu expliques notre incapacité à faire aboutir ces enquêtes? Écoute, il y a tellement d'enquêtes qui finissent en eau de vaisselle puis qui finissent en échec. Avec le recul, là, quelle explication, toi, tu as, mettons, là, quand tu observes ça, quand tu prends un pas de recul?
Bien, en fait, tout ce que je peux vous dire de ce dossier-là, parce que je pense qu'il y a des causes peut-être différentes d'un dossier à l'autre, mais dans ce dossier-là, pour répondre à la question que vous posez, Bernard, ce dossier-là serait un excellent cas d'étude pour comprendre ce qui se passe et comprendre pourquoi ça marche pas quand on est dans la criminalité de col blanc, quand on est dans la criminalité financière. Je pense que le cas justesse serait un excellent cas d'étude et qu'on aurait tous intérêt à avoir plus clair et savoir exactement qui a fait quoi dans ce dossier-là et qui nous amène aux résultats qu'on connaît ce matin.
Est-ce qu'on devrait avoir une espèce de commission d'enquête sur l'enquête qui a avorté pour apprendre et éviter que ça se reproduise? Parce que c'est décourageant pour les citoyens, Marie-Maude. Écoute, c'est décourageant, là.
Ben, je pense que c'est pas ma place de commenter là-dessus. Moi, j'ai révélé des faits en 2016. On avait des preuves extrêmement solides, mais j'espère que il va y avoir des suites parce que pour le public, c'est décourageant de penser que dans des situations comme ça, personne n'est responsable.
C'est incroyable. Marie-Maude Denis, journaliste et bien sûr animatrice de l'émission Enquête. Merci.
Merci, au revoir.
Alors, depuis, au cours des dernières minutes, là, il y a deux ministres du gouvernement Legault qui ont réagi publiquement, Geneviève Guilbeault et Christian Dubé, tous les deux par Twitter. La ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre, Mme Guilbeault, écrit « Comme tous, je suis surprise de la décision annoncée par l'UPAC. Ce n'est pas le dénouement souhaité. Cela étant dit, il s'agit d'une décision prise en toute indépendance et les raisons appartiennent à l'UPAC, dit-elle, avec la Société québécoise des infrastructures. Nous évaluerons les options, dont un recours au civil. » Et c'est essentiellement ce que le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, déclare lui aussi sur Twitter relativement à l'enquête de l'UPAC sur la SQI. « Nous prenons acte de la décision et nous évaluons les options, incluant la possibilité d'un recours au civil pour la suite des choses. » Je vous rappelle que c'est le nouveau patron de l'UPAC, Frédéric Gaudreau, qui a annoncé par communiqué cette décision, donc de mettre un terme à l'enquête justesse. Il écrit « Les conditions ne sont pas réunies pour soumettre le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales. » J'ai parlé un peu plus tôt à Maître René Verret, qui est un ancien procureur de la Direction des poursuites criminelles et pénales. Il est aujourd'hui avocat chez Boucher Avocat. Il nous explique pourquoi un dossier ne se rend pas au DPCP.
Écoutez, d'abord, il y a une distinction qu'il faut faire. Je veux dire, les corps policiers ont un travail important à faire au niveau des enquêtes quand des infractions, quand des informations leur sont transmises. Maintenant, je peux très bien comprendre que les médias, bien sûr, ont un rôle extrêmement important, on le sait. Il y a eu beaucoup de reportages là-dessus, mais en bout de ligne, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est donc le corps policier qui est responsable de faire enquête et d'obtenir des informations dans le but éventuellement de soumettre son dossier au DPCP. Moi, ce que j'ai lu ce matin dans le bulletin d'information que j'ai lu, c'est que le commissaire, effectivement, a mentionné que le dossier en question n'a pas été soumis au DPCP. Alors, pour que des accusations soient portées par le DPCP, encore faut-il que le corps policier transmette son dossier au DPCP, ce qui ne semble pas avoir été le cas dans cette affaire-là.
Donc, ce que vous nous dites, c'est que laissez tranquille les procureurs. Les policiers eux-mêmes ont jugé, dans le fond, que la preuve n'était pas suffisante.
C'est ce que j'ai lu ce matin du communiqué du commissaire qui a mentionné que les conditions n'étaient pas remplies et que le dossier, donc, n'était pas ou n'allait pas être soumis au DPCP. Mais il y a des cas, puis moi j'en ai vu plusieurs, ça m'est arrivé souvent, de recevoir un dossier des policiers et de décider en bout de ligne qu'il n'y aura pas d'accusation. Mais pour ça, j'avais donc le rapport d'enquête au complet, mais dans le cas qui nous intéresse ce matin, ce que j'ai lu, c'est que le commissaire a mentionné que le dossier n'avait pas été soumis au DPCP. C'est une distinction importante.
Après la pause, on va parler de nos jeunes Québécois, qui prennent de plus en plus de médicaments liés au déficit de l'attention. Et franchement, là, vous allez être totalement renversés par les chiffres que je vais vous présenter après la pause.